Dernière séance donc du séminaire de cette année que je me suis efforcé de préparer comme une sorte quand même de conclusion et dont j'espère qu'elle ne sera pas trop sinueuse, bien qu'il y ait un passage pour lequel j'ai quelques craintes a priori. Donc je vais commencer par rappeler quelque chose qui était dans le séminaire de l'année dernière. Et qui tient à ceci que si, me semble-t-il, il est possible qu'une émancipation commence, c'est toute la question du commencement et évidemment ensuite du relais, si le mot convient, il convient pas tout à fait, vous verrez pourquoi tout à l'heure, le relais du commencement. En tout cas, s'il est possible qu'une émancipation commence, ou même tout simplement s'il est possible qu'il y ait de l'émancipation, et donc a fortiori qu'elle commence, c'est en raison du caractère existentiel de la vie humaine. Donc ça, c'est ce que j'avais développé l'an dernier, la notion d'existence, du fait que l'humain est cet être qui ne tient pas en place, qui existe, c'est-à-dire qui sort littéralement de sa situation initiale. Une vie humaine, c'est une existence. Donc, s'il est possible qu'il y ait de l'émancipation, c'est en raison de ce caractère-là, le caractère existentiel de la vie humaine. La vie, cette vie-là, la vie humaine, n'est pour ainsi dire pas faite pour demeurer sous les conditions qui lui sont initialement faites. Alors, je dis, elle n'est pas faite pour demeurer sous les. Elle n'est pas faite pour. Ça serait peut-être plutôt les lectures de cette année. En particulier le roi Gouran, par exemple, qui indique que l'espèce humaine est morphologiquement constituée pour ne pas tenir en place, pour reprendre mon expression d'il y a quelques secondes. Donc la vie telle qu'elle existe, telle qu'elle se présente plutôt dans l'humanité, n'est pas faite pour demeurer sous les conditions qui lui sont faites initialement. Elle invente régulièrement ces conditions, ou, pour le dire dans le langage de Michel Guérin, que j'ai beaucoup suivi cette année, elle est régulièrement transie, la vie humaine, par des gestes, gestes qui sont eux-mêmes, au fil du temps, comme dit Michel Guérin, armés d'outils, de machines ou d'appareils. La vie humaine est faite pour être transi par ce qu'il appelle des gestes, et donc les deux mots sont de lui, hein, le transi. La vie humaine est faite de telle sorte qu'elle est transie par des gestes qui, au fil du temps, se seront trouvés armés d'outils, de machines ou d'appareils. S'il en était autrement, s'il n'en était pas ainsi, si la vie humaine devait demeurer dans les conditions où elle se trouve donnée, à la naissance, si vous voulez, que ce soit la naissance de l'espèce ou la naissance de chacun d'entre nous, si la vie humaine devait demeurer dans les conditions de sa donnée, alors sa logique serait de subsistance, ça c'est allusion à l'an dernier, sa logique serait de subsistance et non pas d'existence. Hein. Vous vous souvenez peut-être de l'opposition des deux préfixes. Voilà. Le problème. J'allais dire, c'est bien beau d'exister, mais le problème, c'est que il est, comment dire, consubstantiel à la notion même d'existence, qu'elle ne soit pas a priori finalisée. Alors, c'est pas qu'elle n'a pas de sens finalement, l'existence humaine. Au bout d'un certain temps, on peut dire, cette existence aura eu du sens, une certaine logique, si vous voulez, mais ça n'est pas a priori. C'est justement une existence parce que ça n'est pas a priori finalisé, ça peut partir dans des directions diverses. Je peux le dire autrement, elle n'a pas, la vie humaine, a priori la justification de son être. Voilà. Ou l'être humain n'a pas a priori la justification de son être. Il est justifié dans son existence après coup. Cette affirmation devrait valoir, je pense, je crois, je suis sûr, même presque, cette affirmation devrait valoir même pour ceux qui raisonnent, pardon, en termes d'évolution, puisque la sorte de logique dont cette notion donne le nom, la notion d'évolution, cette logique n'est pas anticipable. On ne peut pas anticiper l'évolution. C'est souvent un contresens qui est fait sur cette notion de penser qu'elle est a priori censée. Et je crois que ceux qui l'ont mise au point du côté de la biologie disent, ou de la zoologie, disent le contraire. C'est après coup qu'il y a une ligne d'évolution qu'on peut tracer. Donc même l'évolution n'est pas anticipable. Autrement dit, aucune forme de vie ne projette l'évolution qu'elle aura. Ma thèse, par conséquent, est, je le répète, que nous pouvons appeler émancipation une avancée qui est peut-être finalement raisonnable, mais qui n'est pas, pour commencer, raisonnée. Alors, qu'advient-il ensuite, une fois que ça a commencé ? Qu'advient-il ensuite ? Pour que ce qui commence sur le mode du geste s'accomplisse et trouve une forme ou une autre de logique, il faut qu'à un moment ou à un autre, il lui soit fait droit. Donc c'est toute, comment dire, les formules autour desquelles j'ai joué un peu, beaucoup, même au cours de cette année, hein, le fait que l'émancipation, ça consiste à entrer dans le droit, à entrer dans du droit. Donc il y a un geste qui n'est pas a priori censé, ou en tout cas qui n'a pas son sens en soi. Et je pose comme thèse pour raisonner ce soir que pour que l'émancipation s'accomplisse, qu'elle se poursuive, autrement dit, au-delà du geste qui la commence, il faut qu'elle soit, qu'il lui soit fait droit. Je propose cette expression. Ou, pour le dire en réciproque, alors ça, je salue celles qui viennent d'arriver. Je ne m'attendais pas à cette visite. Bon. Pour que l'émancipation s'accomplisse, qu'elle se poursuive au-delà de son commencement, il faut qu'à un moment ou l'autre, il lui soit fait droit. Ou, pour le dire en réciproque, il ne faut pas que la puissance d'ouverture qu'en principe le commencement est, tout commencement est, du fait de sa dimension existentielle, il ne faut pas que cette puissance d'ouverture qu'est le commencement, le geste initial, soit, c'est selon, comme vous voudrez, refoulée, interdite ou captée. Donc c'est un devenir possible du geste qui commence, du geste d'émancipation commençant, qu'il soit, au bout d'un certain temps, peu importe sa longueur, refoulé, interdit ou capté, auquel cas, c'est l'hypothèse de raisonnement que je vous propose, il ne pourra pas lui être fait droit, ce que j'appelle lui être fait droit. Alors, parler comme je viens de faire, dire il ne faut pas que la puissance d'ouverture qu'en principe tout geste commençant est, soit refoulée, interdite ou captée, cette dernière façon de dire me semble particulièrement intéressante pour analyser ce qui se passe quand ce qui émerge de la gestation technique, c'est un appareil. Mais ce n'est pas la seule sorte d'avancée qui soit en capacité de mettre en cause une part au moins des conditions qui font sur le moment régime pour la vie. L'avancée d'un appareil, d'une sorte de technique qu'on peut appeler appareil, dont j'ai essayé de définir précédemment au moins quelques-unes des caractéristiques, ça n'est pas la seule sorte d'avancée qui soit en capacité de mettre en cause une part au moins des conditions établies déjà et qui font pour le moment, qui font, pardon, sur le moment où le geste commence, régime pour la vie. Il y a déjà des régimes de droit, si vous voulez. Quand un geste arrive, un geste ou une technique s'avance qui n'était pas déjà là, il y a déjà des régimes autour de la vie, enfin dans la vie, si vous voulez, régimes qui n'ont pas été faits pour, pardon, par définition, l'avancée qui est en train de s'avancer. Voilà. Donc il y a une rencontre, une sorte de rencontre difficile, je vais passer la soirée à parler de ça, difficile, problématique, entre le geste initial et les régimes de droit, par exemple, qui sont présents et sous la condition desquels subsiste pour le moment la vie telle qu'elle est parvenue à être. En réalité, tout processus, au sens de Michel Guérin, tout processus, vous savez, j'avais dit ça la semaine dernière ou la fois d'avant, la précédente séance ou celle d'avant, l'opposition que fait Michel Guérin entre le processus et le protocole. Hein, le processus, c'est un devenir. Tout processus, pour lui, est toujours en devenir. Et le protocole, c'est ce qui arrête le processus, ce qui arrête le devenir, hein, qui l'encadre. Je vais revenir sur ce mot qui n'est pas de Michel Guérin, que je vais proposer moi ce soir. En réalité, tout processus au sens de Michel Guérin, par lequel la vie s'invente une condition qu'elle n'avait pas, tout processus donc de cette sorte est susceptible d'être interpellé, arrêté, saisi, bref, capté par la dimension protocolaire avec et sous laquelle l'humanité est en train de subsister. Pour ce qui est des appareils, selon du moins la définition que je propose pour ce terme, et qui est discutable, et sinon discutée, pour ce qui est des appareils, pareille interpellation, arrêt, saisie ou capture, n'est pas constitutive de leur technicité intrinsèque, mais elle se trouve au contraire être ce qui, du dehors de cette technicité, est là autour d'elle, comme un cadre est autour d'un tableau. Alors cette référence au cadre m'est venue d'une lecture que j'ai faite ces derniers 15 jours, finalement, le livre d'une philosophe qui s'appelle Natacha Pfeffer, un livre très technique, si j'ose dire, au bord des images, pour une philosophie du cadre, et dans laquelle elle me rappelle cette lecture ou ce texte, la notion que Jacques Derrida avait développée dans La vérité en peinture sous le nom de parergone. Qu'est-ce que c'est que le cadre d'un tableau? Voilà. Parergone. Alors, le mot est intéressant parce que parergone, il y a ergone, le mot grec qui veut dire œuvre, ou qu'on peut traduire souvent par œuvre ou travail. Qu'est-ce qu'il y a autour de ce qui se met en œuvre? Voilà, un cadre. Bon. Un parergone. Et donc c'est ça que je suis en train de faire un tout petit peu mention. L'interpellation, l'arrêt, la saisie, la capture, ça n'est pas constitutif de la technicité intrinsèque, en tout cas dans le cas des appareils, mais ça se trouve être ce qui, du dehors de la technicité, la cadre. Voilà. Comme un cadre autour d'un tableau, et qui, la cadrant, interdit à ce qui advient, ou cadrant ce qui advient, interdit à cela même qui advient l'une de ces modalités possibles. C'est-à-dire, vous pouvez toujours avoir un autre cadre autour d'un tableau. Voilà. Et je dirais la même chose, les initiatives techniques, elles trouvent des cadres qui peuvent toujours être autres qu'ils sont, mais qui, en attendant, sont ce qu'ils sont. Hein, et cadrent comme ils cadrent. Et ce genre de cadre peut interpeller, saisir, capter ce qui est en train d'émerger pour lui, non pas pour lui permettre de s'épanouir dans sa lancée ou de s'épanouir selon sa lancée, mais précisément pour cadrer la lancée en question et, dans certaines mesures, l'arrêter. Hein. Un cadre, d'une certaine manière, c'est ce qui arrête le regard sur un tableau. Bon. Donc c'est une comparaison méditée. Méditons-la autant que nous pouvons. L'interdit protocolaire, le cadre, ce que je viens d'appeler le cadre, engage un rapport, c'est ce que je développe depuis longtemps sous d'autres termes, quand je fais une distinction dans mon travail entre l'invention et la découverte, les conditions d'accueil d'une invention ne sont pas du temps même de cette invention, elles sont toujours préalable. Et il faut du temps pour que l'invention soit découverte de précisément ce qui l'arrête, la saisit, la capte, l'encadre, etc. Donc je dis ce soir, autrement, cette idée que je développe depuis longtemps, cet interdit protocolaire, l'interdit protocolaire engage un rapport retardataire à la technique, puisque en l'accaparant comme il fait, il en retient l'éclosion, il en retient la mise en évidence ou la découverte. Je pourrais dire dans un autre langage l'interdit protocolaire, le protocole en tant qu'il interdit ou cadre, s'approprie la gestualité technique. Ce que Michel Guérin appelle un protocole, je pense, je peux le traduire de cette manière-là en disant le protocole, c'est ce qui permet à ceux qui ont, à ceux qui le tiennent, le protocole, de s'approprier une gestualité technique et de la cadrer, de l'assigner, de la capter, de la saisir, etc., etc. Ou encore, je pourrais dire que le protocole tourne ce qui émerge dans le sens du régime qui non pas épanouit ce qui émerge, mais le justifie, lui, le régime. Le régime, la saisie, le protocole démontre sa puissance et sa dynamique en saisissant le nouveau. Il montre qu'il peut encore saisir, qu'il peut encore capter, etc. Donc, dans certaines mesures, il peut appeler, il peut se réjouir, le cadre, le protocole, etc., le régime, de ce qu'il y ait du nouveau qui se tente, qui s'élance, qui apparaisse, parce que ça lui permet justement de montrer une fois de plus, une fois encore, sa puissance de capture. Mais dans l'affaire, ça n'est pas le vif de l'invention qui s'épanouit. Hein, précisément, c'est le contraire. L'invention, dans sa vivacité, est saisie, captée, etc., etc., encadrée. Tant que cette situation a lieu, tant que c'est un régime protocolaire qui cadre, saisit, etc., ce qui est en train d'émerger, tant que cette situation a lieu, l'appareil est lui-même tenu en puissance, il ne se réalise pas, et alors il est appareil au sens de Wilhelm Flusser, comme on a pu l'évoquer la dernière fois. Alors, ce n'est pas tout à fait un rappel, ce que je viens de faire, mais ça l'est quand même un petit peu. Ce n'est pas tout à fait un rappel, parce que je ne crois pas l'avoir dit exactement avec ce vocabulaire, mais je pense que les idées étaient quand même grosso modo là. Ce que je voudrais maintenant, c'est lier tout ce que je viens de vous dire, j'espère que c'est clair, à peu près, à la thèse de Katharina Pistor, évoqué plusieurs fois au cours de ce séminaire, dans son livre « Le Code du Capital ». Je voudrais donc lier mes propositions de ce soir à la thèse de Katharina Pistor, soutenant que le capitalisme, à mon sens, alors ça je dis à mon sens que ce n'est pas elle qui le dit dans son livre, c'est moi qui le dis l'ayant lu. La thèse de Katharina Pistor, soutenant que le capitalisme, à mon sens donc définissable comme un régime de la technique, au sens que je viens de dire il y a quelques minutes, le capitalisme, régime donc de la technique à mon sens, ne peut se maintenir, alors ça c'est la thèse de Katharina Pistor, qu'appuyé sur et par un certain codage, qu'elle nomme donc le code du capital, mais que je peux aussi bien comprendre comme une façon déterminée et têtue de définir un ensemble technique en lui fournissant précisément un cadre protocolaire. Le capitalisme, je suis en train de dire ça tout simplement, le capitalisme est un protocole pour la technique. Voilà. Un cadre, une saisie, une capture, etc. Alors j'ai dit que c'était une façon déterminée et têtue de définir un ensemble technique en lui fournissant un cadre protocolaire. Je dis déterminée parce que l'organisation à laquelle conduit l'ensemble technique dont le capitalisme se saisit n'est pas la seule que la technique protocolarisée dans le cadre capitalistique puisse accepter. On pourrait imaginer un autre cadre. En fait, c'est ma thèse foncière. Il n'y a pas de technique qui soit vouée à un seul cadre possible. Voilà. Donc, le capitalisme est un cadrage déterminé de la technique, un cadre déterminé pour la technique. Un autre cadre serait possible. Voilà. même s'il ne se réalise pas effectivement, même s'il ne s'est pas réalisé effectivement dans l'histoire. Il aura toujours été possible que ça soit une autre saisie de la technique qui ait lieu. Donc, c'est une saisie déterminée, la saisie capitalistique de la technique, et c'est une saisie têtue, et je dis, parce que la même organisation technique saisie par le capitalisme, parce que le capitalisme, en tant que régime protocolaire, s'est montré capable historiquement, comme on le sait, d'enrégimenter plusieurs vagues d'inventions techniques. Par exemple, la vague de la machine à vapeur, la vague de l'invention des appareils d'enregistrement, de l'électricité, et aujourd'hui, évidemment, de ce qu'on appelle l'informatique et le numérique. Donc le capitalisme est un cadre de saisie têtue de la technique, puisque régulièrement, il effectue, en effet, son codage singulier. Ce que me donne à penser de son côté le livre de Katharina Pistor, c'est que tout le codage par quoi se règle le sort historique des gestes et des techniques depuis plus de 2 siècles au moins, tout ce codage se produit d'abord sur le mode gestionnaire et économique d'un mode d'emploi qu'il faut entériner. Et c'est le droit qui entérine ce mode d'emploi. Ce mode d'emploi à entériner n'est donc pas immédiatement ni en soi de droit. Parce que ce que me donne à penser le livre de Katharina Pistor, c'est pour le, je sais pas, j'ai beaucoup hésité, c'est une métaphore, je sais pas si elle est bonne, mais disons qu'il y a des, il y aurait quelque chose comme des étages, si vous voulez. Il y a les gestes, l'avancée d'un geste technique qui n'est pas en soi finalisé, etc. Il y a un étage où ce geste est employé, mis en emploi, cadré, etc., dans un régime, etc. Et ensuite, ce régime lui-même est soutenu par le droit. Mais ce régime qui cadre le premier, il n'est pas d'abord de droit. Il est donc d'une autre nature. Et je ne vois pas, pour ce qui me concerne, d'autre manière de le nommer que de le dire économique. Pas juridique, mais économique. Quelque chose qui se passe avant le juridique, si vous voulez, avant le cadrage juridique qui entérine la saisie capitalistique, en l'occurrence. Et évidemment, ce niveau, ce premier niveau, il n'est pas donc immédiatement juridique. Il est d'abord d'une autre nature économique. Le droit code finalement. Mais avant que le droit code, il y a un autre codage de la gestualité technique. Le droit code finalement, qui plus est, en prononçant des arrêts en dernier ressort garanti, c'est la thèse du livre, par la puissance étatique. Il n'y a aucun droit, c'est ce que je crois montre Katharina Pistor, qui ne soit soutenu en dernier ressort par l'État. Donc vous avez, si je continue la métaphore de l'étagement dont je ne suis pas tout à fait sûr, il y a le geste technique, son emploi dans un régime économique, qui est un régime parmi d'autres possibles, au moins dans l'absolu de la pensée. Voilà. Il y a la le devenir juridique de ce premier, de ce cadrage économique, et le droit lui-même est soutenu par la puissance de l'État. Voilà. Il y a toujours un État qui soutient le droit. Parenthèse, c'est pourquoi dans la lancée de ce livre, on peut penser que la conquête du pouvoir d'État n'est jamais indifférente. La conquête ou le fait de l'avoir avec soi, la puissance d'État. Alors je pense qu'une émancipation, qu'un mouvement d'émancipation qui ne s'attaquerait pas aux divers niveaux économiques et juridiques de codage que je viens de vous indiquer, un tel mouvement ne serait pas complètement une émancipation. Un mouvement d'émancipation qui ne s'attaquerait pas, je répète, au niveau économique et juridique de codage de la technique, ne serait pas complètement une émancipation. Le problème, c'est que pour porter cette attaque, Il faut à terme sans doute agir en droit, mais pour cela, d'abord, je crois, s'en prendre au cadre. Alors, agir en droit, pour moi, c'est une des façons de définir tout simplement l'action politique. À cause de textes que j'ai lus, dont j'ai parlé, non pas l'année dernière, mais encore dans le séminaire d'avant. Donc, évidemment, moi, je n'ai pas oublié mon séminaire d'avant. Et vous, ce n'est pas forcément la même chose. Mais en fait, j'y pense quand même. Pouvoir agir en droit, c'est être un sujet politique. Enfin, c'est une façon de définir. Bref, pour porter attaque au niveau économique et juridique de codage de la technique et par conséquent libérer la technique du régime qui la met en œuvre à sa façon, à lui, le régime, et pas selon ses capacités ou toutes ses capacités à elle, la technique, il faut donc s'attaquer au régime économique et juridique, et pour porter cette attaque, il faut certainement agir en droit, mais d'abord, s'en prendre au cadre économique. Cela suppose de ne pas rester sur le seul geste initial, sur le fait initial du geste. Cela suppose, pour le mouvement d'émancipation lui-même, de changer de registre. Hein. Il y a une technique qui s'émancipe, il y a un geste technique nouveau qui est porteur de modifications dans les conditions de vie. Hein. Et on pourrait en rester là. On dirait, ouais, voilà, on n'a pas rien fait en technique. Ça ne changera pas la vie si le mouvement qui a amené la technique ne s'attaque pas au régime économique et juridique. Mais pour cela, il faut que lui-même, ce mouvement, change de registre, qu'il cesse d'être seulement technique. Il faut qu'il passe du faire, qui est technique, à l'agir, qui est, disons, politique. Il faut passer du bricoler au se plaindre, au porter plainte, au pouvoir se plaindre. J'ai essayé de vous en parler plusieurs fois dans le séminaire de cette année. Hein, le sujet émancipé, je le définis strictement comme un sujet qui peut porter plainte en droit, qui peut se plaindre en droit. On peut toujours se plaindre, mais se plaindre en droit, ça demande le suivi de toute série de procédures, etc. Ça demande d'être reconnu comme un sujet fondé, apte, admis à se plaindre en droit. Hein. Donc, pour porter atteinte au cadrage économique et juridique, au codage qui enserre ce qui est en train d'émerger, de s'émanciper. Il ne faut pas rester sur le fait initial, il faut changer de registre, il faut passer du faire à l'agir, du bricoler au se plaindre, bref, du geste au langage. Alors ça va être mon sujet, pour clore ce séminaire, de parler enfin de ça. Hein. Je pense que vous êtes quelques-uns à m'attendre sur cette affaire. Alors, donc je vais enfin parler du passage du geste au langage, du bricoler au se plaindre, du faire à l'agir. Et simplement, je vais dire, ce passage est un passage risqué. Ce passage est un passage dans lequel le mouvement d'émancipation risque lui-même de se perdre. S'il en est ainsi, s'il y a risque pour ceux qui s'émancipent, je viens de dire de se perdre ou de tourner à contresens, c'est parce qu'il y a, c'est une thèse philosophique absolument générale, et je veux dire, quand je veux le dire comme je veux le dire, vous allez dire, bah, c'est d'une banalité affligeante, voilà. Mais, bon, essayons de réfléchir quand même un petit peu. S'il y a un risque pour ceux qui s'émancipent, c'est parce qu'il y a une disproportion entre la fin et le commencement. En tout cas, dans le cas d'un mouvement d'émancipation. Disproportion entre la fin et le commencement. La fin. La fin, c'est être entendu. Je voudrais qu'on m'entende. Voilà. La fin, c'est être entendu. C'est partager par conséquent un langage. On ne peut pas porter plainte si on ne partage pas un langage avec les instances auprès desquelles on se plaint. Bon. Partager un langage et par conséquent ne pas parler un idiolecte. Ça, c'est la fin. Mais le commencement, en tant que c'est, si mon hypothèse est juste, toujours un geste par quoi commence quoi que ce soit, le commencement n'est précisément pas au fait, au sommet, je veux dire, du langage. Le commencement opère toujours sans éloquence. J'ai essayé de montrer ça, enfin, en tout cas, je l'ai affirmé plusieurs fois au cours du séminaire de cette année, que ça commence pas par du discours. Voilà. Qu'on se dit rien vraiment quand on commence. Une opération gestuelle. Donc il y a une disproportion entre la fin être entendue, donc être dans le langage, et le commencement opéré en dehors de toute éloquence. Mais c'est cette situation qui fait que ça commence comme ça commence, comme je viens de vous dire, c'est cette situation qui fait que précisément on se met à véritablement parler. Donc, je voudrais dire quelques mots là-dessus, un peu concis, je le crains, sur ce que c'est que véritablement parler, vraiment passer à la parole. D'une manière générale, l'allure des mots, du phrasé, de la syntaxe, de ce que je viens d'appeler une véritable parole, n'est pas déjà dans la langue pour ce qu'elle a elle-même d'entendu. Est-ce que quand je dis ça, je suis clair pour vous? D'une manière générale, l'allure des mots, du phrasé, de la syntaxe, de ce que j'appelle une véritable parole, n'est pas déjà dans la langue pour ce qu'elle a elle-même d'entendu. C'est-à-dire, on n'a jamais entendu ça. Quand, mettons que quelqu'un qui se mette à vraiment parler, ce que j'appelle vraiment parler, donc la distinction qui va venir, c'est pas seulement communiquer, pas seulement faire passer un message, pas seulement faire savoir, je vais revenir là-dessus, mais vraiment parler. Quelqu'un qui. Ça, c'est le texte de Merleau-Ponty dont vous m'avez fait parler, ou dont j'ai parlé peut-être tout seul lors d'une séance précédente. Vraiment parler, c'est dire quelque chose qui n'a jamais été entendu, d'une manière ou d'une autre, le dire d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui n'a pas. Déjà été entendu, pas comme ça, pas sur ce ton-là, pas avec ce phrasé-là, pas avec cette syntaxe-là, pas avec ce mot-là, etc. Hein? Vraiment parler, c'est pas déjà dans la langue. Et en même temps, c'est évidemment la difficulté et le paradoxe, ça ne peut que passer par la langue. La parole ne peut que passer par la langue. Donc c'est ça le paradoxe de la parole. Moi, je dois ça à Merleau-Ponty, encore une fois, c'est que ça ne peut exister que dans, se produire, pardon, que dans la langue, et en même temps, pour y mettre, si j'ose dire, quelque chose qu'elle a elle-même, la langue, jamais entendue et par conséquent qui n'est pas dans sa mémoire de langue. Voilà. Ce qui fait dire, ce qui fait qu'on dit, qu'on parle vraiment, n'est pas de l'ordre du bien entendu dans la situation où on est en train de se mettre à parler. Ce qui fait dire ou parler vraiment, n'est même pas de l'ordre de ce que le sujet se dit déjà à lui-même dans la situation où il se met à parler. C'est-à-dire, quand je parle, vraiment, si vraiment je parle, je ne me dis pas déjà ce que je vais dire. Je cherche ce que je vais dire. Je ne me le dis pas déjà. Donc, ce qui fait dire vraiment n'est pas de l'ordre du bien entendu dans la situation où on se met à dire. Ça n'est même pas de l'ordre de ce que le sujet se dit déjà dans cette situation, et ça n'est pas non plus de l'ordre de ce que ce même sujet entend déjà alors quant à lui. C'est-à-dire, je pense que c'est l'expérience à partir de laquelle on parle vraiment, c'est une expérience dans laquelle on s'est perdu en tant que sujet. Quand je communique dans la vie courante, etc., je ne suis jamais perdu en tant que sujet. Je sais que je suis en train de vous parler, je sais ce que je suis en train de vous dire, je le sais même d'avance, voilà. Mais quand il y a cette expérience du vraiment parler, on ne peut pas vraiment parler si on n'a pas cherché ces mots, et si par conséquent on ne s'est pas soi-même à un moment ou l'autre perdu dans les mots disponibles, dans le langage. Il faut travailler le langage disponible s'il s'agit d'ajuster son parler ou sa parole à un fait par définition inédit puisque commençant. Je vous le redis ça. Il faut travailler le langage disponible. Je ne sais pas, je crois bien que dans le texte de Merleau-Ponty, il y avait cette phrase, faire accoucher la langue de significations qui ne sont pas déjà disponibles. Il faut travailler le langage disponible pour ajuster le parler ou la parole qu'on entreprend de faire exister, pour ajuster cette parole à un fait par définition inédit puisque commençant. Donc quand quelque chose commence, il n'y a pas de mot pour le dire, déjà. Voilà. Et ça ne pourra passer au langage que moyennant, si ce mot convient, un travail de langage ou du langage. Voilà. Et c'est comme ça, précisément parce que le langage tel que disponible, tel que déjà disponible, tel que toujours déjà disponible dans telle ou telle situation, n'est pas particulièrement disponible pour le fait nouveau qu'on entreprend de dire. Il n'y a pas le langage tel que disponible, n'est pas disponible pour ça, pour dire ce qui n'a jamais été dit. Voilà. Il y a une certaine... C'est un paradoxe, je sais bien. J'ai tourné, je ne sais pas combien de fois, en préparant cette séance, ce passage. J'espère que c'est clair. Voilà. Bon. Alors, je propose qu'on s'arrête un peu sur ce point-là. Si le langage, ou la langue, si le langage, avec ses formules faites, toutes faites, est compris comme une sorte de magasin à signification disponible dans lequel on pourrait puiser quand on a quelque chose à dire. On pense que c'est souvent comme ça. Donc, j'ai quelque chose à dire, il y a des mots, je puise dans le répertoire de mots pour dire ce que je sais que je veux dire, etc. Je pense que c'est pas ça vraiment parler, hein, ce que j'essaye de... J'essaye de vous dire. Si le langage, avec ses formules toutes faites, si le langage compris comme une sorte de magasin à signification disponible, n'est pas immédiatement pratique pour une parole, une façon de résumer ce que je viens d'essayer de vous dire, hein, le langage n'est pas immédiatement pratique pour une véritable parole. Il est immédiatement pratique pour autre chose qu'une véritable parole que j'appelle simplement une communication. En faire savoir. Voilà. Si le langage n'est pas immédiatement pratique pour une parole, il l'est donc, en revanche, immédiatement pratique pour ce que je vous propose d'appeler en faire savoir. Hein? C'est-à-dire, je te fais savoir que. Voilà. Le faire savoir, le se faire savoir les uns aux autres, c'est ce que peuvent faire les systèmes de communication dont les animaux, considérés globalement comme des êtres non opérateurs de gestes et non armés de techniques au sens humain du terme, par exemple les abeilles, sont capables. Se faire savoir, disposer d'un système de communication pour s'y faire savoir un certain nombre de choses, les abeilles en sont capables et par extension les animaux considérés, je dis, comme êtres non opérateurs de gestes et non armée de technique au sens humain du terme. Alors, ces précisions de langage, ça serait tout un débat à ouvrir. Je m'appuie sur un certain nombre de textes, dont l'un d'entre eux est de Benveniste, mais qui date des années 60, si ma mémoire est bonne, et d'une époque dans laquelle la recherche scientifique tenait à marquer une différence entre l'être animal et l'être humain. Aujourd'hui, comme vous le savez, la tendance, alors je ne sais pas si elle est scientifique, mais en tout cas autour des sciences, et plutôt de dire, si j'ose cette plaisanterie, les animaux sont des humains comme les autres. Et peut-être on peut quand même essayer de penser qu'il y a quelque part de la différence. Alors, je fais des propositions timides. Aujourd'hui, je l'ai fait avec timidité. Si je parlais il y a 50 ans, je les ferais tranquillement. Hein. Mais là, je sais qu'il faut que je prenne des précautions. Donc je m'appuie sur un certain nombre de textes qui maintiennent l'idée que il y a comment appeler ça, des opérations dont seule la physiologie humaine est capable. Le texte de Leroy Gourhan, qui date de la même époque hein, que le texte de Benveni, c'est ça qu'elle dit aussi. Hein. C'est-à-dire, nous sommes faits pour, j'ai rappelé en commençant, opérer des gestes et parler. C'est le titre du livre, Princeps de Leroy Gourhan, le geste et la parole. Voilà. Mais pas tous les animaux sont capables et de gestes et de paroles. Voilà. En revanche, les animaux sont capables de d'inscrire leur comportement dans des systèmes de communication, par exemple les abeilles, et c'est connu depuis l'Antiquité, puisqu'il y a des textes d'Aristote qui en parlent. Je vais d'ailleurs en parler moi-même dans une seconde. Alors ces systèmes de communication n'ont pas les caractéristiques des langues grâce auxquelles nous pouvons, nous, véritablement parler et pas simplement communiquer, c'est-à-dire nous faire savoir un certain nombre de choses. Ces systèmes, donc je fais une distinction entre système de communication et langue. Les systèmes de communication ne sont pas ouverts à toutes sortes de sujets. On ne peut pas, autrement dit, communiquer, si on est une abeille, sur n'importe quel sujet. Il y a un nombre déterminé, une liste close de sujets de communication possibles. Et peut-être que la communication, c'est toujours ça. Quelque chose qui est fondé sur une définition du champ du communicable. Bon, en tout cas, les systèmes de communication dont certains animaux au moins sont capables ne sont pas ouverts à toutes sortes de sujets. Et s'ils autorisent la réponse comportementale, ils n'autorisent pas la discussion. C'est-à-dire, une abeille peut signifier à une autre qu'il y a du miel à butiner à telle distance et dans telle direction. Et l'abeille ne répond pas au niveau de ce qui lui est dit, elle répond par un comportement, c'est-à-dire elle y va. Voilà. Elle ne discute pas. Alors que nous, nous entretenons un rapport avec des langues qui peuvent être parlées et qui par conséquent sont ouvertes à ce que je suis en train d'appeler la discussion ou le discutable. En ce sens que je viens d'essayer de vous dire, les systèmes de communication ne constituent pas un champ pour l'agir et pour le politiser. J'apporte cette précision parce que je pense que lorsque Aristote définit l'humain comme animal politique, il le fait en précisant aussitôt que cette formule suppose l'existence chez cet être, l'animal politique, d'une capacité à parler, et que cette capacité à parler ne se confond pas avec le mode de communication propre aux abeilles. Il le dit littéralement. Alors, de quoi s'agit-il, par conséquent, avec cette essence politique du parler, repérée dès Aristote? Qu'est-ce que parler et politiser, si ça n'est pas faire savoir? Ou seulement communiquer? Si ou quand, alors est-ce que vous m'accordez ce que je veux dire? Si ou quand je ne fais pas savoir, c'est-à-dire je dis quelque chose, mais pas sur le mode du « je vous fais savoir hein ». Si ou quand je ne fais pas savoir, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je crois que je cherche ce qui peut être dit, non pas seulement ce que je peux dire, mais ce qui peut être dit. Je demande ou je me demande. Je pense que, je ne sais pas comment dire ça, l'opposé du faire savoir, c'est le se demander. Pourquoi je ne vous fais rien savoir? Ben parce que je me demande ce que je pourrais bien vous faire savoir. Et peut-être aussi parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous pouvez dire, vous. Et je vous demande, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, sur tel sujet? Voilà. Ça, si j'ai bien suivi le texte de Benveniste que j'évoquais tout à l'heure, les abeilles, elles ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire l'animal ou le vivant, en tant qu'il serait, qu'il est ou qu'il serait pris dans un système de communication, il ne peut pas demander, ni à soi-même, ni à l'autre. Il ne se demande pas et il ne demande pas aux autres. Voilà. Il transmet un message Et la réponse est de type comportemental. Voilà. Et pas en retour une question. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Voilà. Donc, si ou quand je ne fais pas savoir, je cherche en fait ce qui peut être dit, je demande ou je me demande. Et si je demande ou je me demande, c'est évidemment, enfin évidemment, si je demande ou je me demande, c'est parce que je ne sais pas déjà. Je cherche des mots qui éteindront suffisamment, qui pacifieront une certaine quête pas encore dite en moi et pour moi. Mais je pense que c'est ça l'expérience de la parole. Je cherche des mots qui vont être en mesure d'éteindre suffisamment, pas complètement, mais suffisamment, qui vont pacifier une certaine quête pas encore dite en moi-même et pas dite non plus pour moi par quelqu'un d'autre. Voilà. Une certaine quête donc qui est là pour le moment en moi, en absence de formule satisfaisante. Je parle parce que je n'ai pas trouvé, ni en moi, ni autour de moi, de formule satisfaisante. Autrement, je communique. Je fais savoir, je sais, je fais savoir, etc. Pour l'heure, quand je parle, quand je me mets à parler, pour l'heure, le langage qui pourrait convenir n'est pas là. Et le langage qui a convenu dans d'autres occasions, qui est venu avec ces autres occasions, ne va pas pour la circonstance que je cherche à dire. Il faut donc travailler à dire. Le dire est un travail. Dire est un travail. Il faut travailler à dire. Dire est un travail. Et c'est ce travail, ce travail-là, le travail du dire, que Merleau-Ponty associait à la notion d'appareil de parole. Cette notion chez Merleau-Ponty est évidemment relative à l'idée d'une langue parlable, les systèmes de communication ou une langue qui serait considérée comme n'étant qu'un système de communication ne serait pas une langue parlable. Un système de communication n'est pas parlable. Voilà. La thèse de Merleau-Ponty, c'est qu'il y a un appareil de parole parce que la langue dans laquelle cette parole ou de laquelle cette parole va émerger est parlable elle-même et qui d'ailleurs cette langue s'entretient comme langue du fait d'être parlée, c'est-à-dire du fait d'être considérée autrement que pour sa disponibilité communicationnelle, c'est-à-dire considérée autrement que pour sa disponibilité communicationnelle, c'est-à-dire pas seulement traitée en outil de communication. Voilà. La langue est parlée, s'entretient comme langue parlable dans la mesure où elle n'est pas considérée ou traitée en outil de communication bien pratique pour ce qu'on a à dire et qu'on sait déjà qu'on veut faire savoir. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est suffisamment bien dit, mais si j'essaye de résumer ce que je viens d'essayer, donc péniblement, je le crains, de vous suggérer, tout ça revient au fond à dire que le sujet qui parle, un sujet qui parle, n'est jamais plein de conviction. Il demande et se demande, comme je vous disais il y a quelques minutes. En ce sens, ce sujet est fragile. Il est sur une position fragile. Elle est cette position du sujet qui se met à parler. Je vous rappelle que c'est ça que je cherche. Hein. C'est-à-dire, il s'agit de faire passer à la parole quelque chose qui est de l'ordre d'une émancipation qui a commencé dans un autre registre que le registre de la parole. Hein. Et donc, parler, c'est un travail, etc. C'est pas aussi simple qu'une communication, ce dont j'essaye de décrire la difficulté. Voilà. Et le sujet qui a à dire quelque chose qui commence et qui par conséquent n'est pas déjà enregistré ni dans le régime de codage, etc., ni dans la langue. Voilà. Il est dans une position fragile, ce sujet-là. Une position, bon, j'ai pas d'autres mots. En tout cas, sa position, si le mot fragile vous convient pas, sa position est à l'inverse de la suffisance et de l'arrogance. Et c'est là ce que je voudrais méditer pour finir, non seulement cette séance, mais le séminaire. Au fond, ce que j'essaye de suggérer, c'est que, au fond, ce qui fait la difficulté d'un mouvement d'émancipation et son risque, comme je disais tout à l'heure, c'est que, alors, dans une séance précédente, j'avais dit, ça commence par des petits gestes. C'est toujours un petit geste. Un geste, c'est toujours petit pour commencer. Voilà. Mais en même temps, le passage du geste à la parole, qui respecterait ce geste, pas qu'il l'emploierait, pas qu'il le cadrerait, etc., mais qui essaierait de l'épanouir dans le langage, de le découvrir dans le langage, cette opération-là de parole, elle est à l'inverse de la suffisance et de l'arrogance. Et donc, c'est ce que je voudrais vous proposer de méditer pour finir. Le problème de l'émancipation, s'il faut qu'elle se rende discutable en droit. En fait, j'aurais pu dire simplement s'il faut qu'elle aille jusqu'à son inscription en droit. Mais pour être inscrit en droit, il faut passer par la discussion. Voilà. Faut que la chose soit discutée en droit pour être finalement admise en droit. Bon. Donc il faut qu'à un moment donné, ça se discute. Voilà. Et pour que ça se discute, il faut passer pour que ça soit une vraie discussion. Autrement, on est juste dans la communication, le faire savoir. Tiens, on n'est pas dans la véritable discussion. Il faut qu'il y ait un travail, un travail comment dire, en direction ou dans le registre. Du vraiment parler. Bref, le problème de l'émancipation, s'il faut qu'elle se rende discutable en droit, si c'est là, si vous voulez, son meilleur devenir, ou son devenir tout court, si en ce sens, l'émancipation, a à devenir une action, pas seulement un faire, mais une action, ou quand elle est en passe de devenir une action, le problème de l'émancipation, quand elle est en passe de devenir une action, c'est-à-dire d'aller à l'inscription en droit. Le problème donc de l'émancipation, c'est qu'elle n'est pas a priori armée pour ça. Elle n'a pas déjà son langage, j'allais dire je me tue à le répéter, elle n'a pas déjà son langage, et pourtant dans cet état, où elle n'a pas déjà son langage, etc., elle n'est pas armée en droit. Pourtant, dans cet état, elle a à faire face à la suffisance et à l'arrogance de tel ou tel régime de langage qui, lui, est validé. Elle a à s'établir, étant donné la suffisance et l'arrogance qui lui font face et qui sont déjà inscrites, elle, dans le langage et le droit. Alors, de quoi est-il question avec ces dernières notions, avec ces derniers mots que je viens d'introduire, arrogance et suffisance? Il y a une disproportion, hein, j'espère que je suis clair, entre l'émancipation qui commence toujours par pas grand-chose et, je sais pas comment dire, le caractère imposant, en fait, je propose de dire arrogant et suffisant, au sens où on dit de quelqu'un est suffisant, hein, c'est-à-dire vautouise, on vous regarde de haut, etc. Hein. On peut dire ça, n'importe quel mouvement d'émancipation qui commence, petit geste d'émancipation qui commence, est toujours regardé de haut, hein, par les tenants des régimes de langage, de droit ou d'économie, pourquoi pas. Bon. Donc, de quoi est-il question avec ces mots-là, arrogance et suffisance? Alors, réponse, qui n'est pas de moi, elle est de Roland Barthes. Dans une de ses leçons au Collège de France sur le neutre, et où il s'est mis, il a eu envie, enfin, je ne sais pas si vous connaissez séminaire de Roland Barthes au Collège de France était assez... ça allait à l'inspiration. Bon, à un moment, il a envie de parler de ça, de l'arrogance, il le fait. Et il dit, l'arrogance, c'est... de quoi est-il question avec ce mot-là? Réponse, de ce qui ne laisse pas demander. Ça, c'est la définition de Barthes. L'arrogance, ce qui ne laisse pas demander. Je trouve cette définition magnifique. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas en passer par là. Moi qui me dis depuis longtemps que parler, c'est demander et se demander. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas parler quand on a affaire, quand on a face à soi de l'arrogance. Voilà. Puisque précisément, l'arrogance ne laisse pas demander. Si Barthes a raison. Enfin bon, c'est Barthes, donc on admet que ça vaut le coup. Enfin, je l'admets. Pour moi qui pense, en suivant la définition aristotélicienne, que l'exercice de la politique consiste moins à faire des déclarations qu'à se demander les uns aux autres ce qu'il en est de l'utile, du nuisible, du juste et de l'injuste, je reprends juste la définition de la politique chez Aristote, hein, sauf que j'ajoute que il faut parler ça, dit Aristote. Il faut parler à propos de l'utile et du nuisible, du juste et de l'injuste. Or, ce parler-là, je ne peux le comprendre que signifiant un se demander. L'être humain est un être politique, l'animal humain est un animal politique parce qu'il a à se demander ce qu'il en est de l'utile et du nuisible, du juste et de l'injuste. Il se le demande. Il se le demande les uns aux autres. Parce que ça n'est pas déjà donné instinctivement, si vous voulez, dans sa nature d'animal. Il faut qu'il passe par la politique, il se demande. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe si on ne laisse pas demander Donc pour moi qui pense que c'est ça, l'exercice de la politique, se demander les uns aux autres ce qu'il en est de l'utile, du nuisible, du juste et de l'injuste, ne pas laisser demander, c'est interdire un destinataire de politique, c'est autrement dit dépolitiser ce destinataire. Mais au-delà de cette remarque, si j'appelle despote, comme je le fais depuis le début de ce séminaire, si j'appelle despote celui qui se réserve le se demander, le despote, ça aussi c'était un texte d'Aristote que j'ai plusieurs fois cité. La définition que je... Alors c'est très succinct, ça passe très vite dans le texte, mais il me semble que Aristote définit le despote avant de parler de politique. Donc c'est pas au niveau politique qu'il définit le despotisme. Donc pour moi, c'est au niveau de l'oïkos que ça se joue. Et je pense que, l'entour du texte me donne à penser que le despote, c'est celui qui envisage pour l'autre. Bon, c'est pas une traduction littérale, mais je pense que ça correspond. Qui se réserve le droit d'envisager, la possibilité, pardon, d'envisager, c'est-à-dire qu'il l'interdit à l'autre. Voilà. J'envisage pour toi. Et c'est ça le despote. J'envisage pour moi et pour toi, et tu n'as pas à envisager puisque je le fais pour toi. Bon. Donc si j'appelle despote celui qui se réserve le se demander, c'est-à-dire si j'appelle despote celui qui ne fait pas droit à l'interrogation de l'autre quant à ce qui peut advenir. Alors je peux dire aussi que dans la façon arrogante d'interdire le se demander réciproquement, ou dans la façon arrogante d'interdire la réciproque dans le se demander, je peux dire que là réside encore une dimension que le cours de Barthes n'évoquait pas directement. Cette autre dimension, nous la trouverons si, en faisant un lien entre l'arrogance et la suffisance, nous comprenons que réside dans l'un et l'autre mot, arrogance et suffisance, l'idée qu'il n'y a rien à faire ou à dire du côté de l'autre qui ne soit déjà fait ou dit du côté du despote. Tu n'as rien à dire, j'ai tout dit. J'ai déjà tout dit, tout est déjà dit. Voilà. Il n'y a donc rien à dire. Voilà. Le despote est celui qui est donc alors, arrogant, ad rogare, le sabart le fait remarquer, l'étymologie latine, hein, ça veut dire amener à soi. Voilà. Je prends toute la capacité à dire, et tu en es par conséquent, en tout cas dans mon esprit, dépossédé. C'est ça l'arrogance, si je comprends bien le propos de Barthes, et si je le développe juste un petit peu. Réside dans ces mots-là, arrogance et suffisance, l'idée qu'il n'y a rien à faire ou à dire du côté de l'autre, qui ne soit déjà fait ou dit du côté du despote. Est arrogant ou suffisant, quiconque s'arroge le dire et par conséquent le droit de dire notamment. Est arrogant ou suffisant, quiconque s'arroge le dire, ou encore, l'arrogance est ce mode de présence qui ne fait pas droit à l'initiative de l'autre ou se l'arroge. Ne pas faire droit à l'initiative autre, c'est d'abord ne pas la laisser parler. Il n'y a pas d'autre initiative que celle que je dis moi-même possible. Ça, c'est la position du despote, arrogant et suffisant. Voilà. Je ne fais pas droit à l'initiative autre, à une autre initiative que celle que j'envisage moi-même. Je ne fais pas droit. Voilà. Et je ne fais pas droit, ça veut dire d'abord... Je ne laisse pas cette initiative être parlée. Voilà. Je contrôle, dans certaines mesures, le ce qui se dit. Ça va? Je continue? Alors, j'ajoute une précision. Le même Barthes, dans la même leçon au Collège de France, ne me demandez pas comment il est passé du sujet que je viens de vous dire à celui que je vais vous dire. Le fait est, il n'y a qu'à écouter la leçon. Dans la même leçon au Collège de France, Roland Barthes évoquait aussi donc l'opposition entre, je le cite, dicter les désirs et laisser à désirer. Je vous propose de méditer un peu là-dessus. Laisser à désirer. Donc il disait qu'il y avait une opposition entre dicter les désirs et laisser à désirer. Je ne peux pas ne pas penser qu'il disait ça avec un sourire au coin des lèvres. Il méditait sur l'hypothèse, c'est pas moi, c'est lui, je vous assure, hein. Il méditait sur l'hypothèse d'une mère qui laisserait à désirer rien. Il faut parler comme ça. C'est-à-dire, bon, est-ce qu'il pensait à sa propre mère? L'hypothèse d'une mère qui laisserait à désirer rien. Alors, je pense qu'il pensait que cette mère se pensait elle-même, excusez-moi pour la répétition de ce verbe, hein, cette mère se pense, dans l'esprit de Barthes, je crois, comme suffisante, puisqu'elle laisse à désirer rien. Elle est suffisante. Et c'est précisément ce qui fait qu'elle fait manquer au désir l'enfant dont elle s'occupe. Alors, c'est la leçon de Barthes, c'était la leçon de la psychanalyse aussi à cette époque-là. Mais je pense que ça vaut toujours le coup d'être médité. Donc, il méditait sur cette hypothèse-là, une mère qui laisserait à désirer rien, qui donc, substantiellement, se pense comme suffisante, puisqu'elle laisse à désirer rien. Et c'est précisément ce qui fait qu'elle fait manquer au désir l'enfant dont elle s'occupe et dont elle a souci. Mais dont elle s'occupe et dont elle a souci, en le posant, cet enfant, comme incessamment mineur, par sa manière même de s'occuper et d'avoir souci de l'autre qu'il est, cet enfant. Elle a souci de lui, mais en tant que mineur. Et je dis incessamment mineur, c'est-à-dire dans la mesure où elle le fait manquer au désir, dans la mesure où elle lui laisse à désirer rien, il va demeurer mineur dans le registre du désir et de l'existence. Voilà. Il va se tenir in fans, c'est-à-dire sans parole, sans parler, sans parler le désir qui peut-être quand même aurait pu ou pourrait l'animer ou l'élancer ou lui donner de l'élan ou lui donner de l'allant dans la vie, pour reprendre des mots que j'ai plusieurs fois employés au cours de ce séminaire. Voilà ce qui fait que chez l'enfant, pour moi par extension l'autre, ou celui que je pourrais appeler l'adversaire, alors adversus en latin, tourné vers, c'est-à-dire nous sommes, par exemple, quand nous parlons, nous ne sommes pas des ennemis, mais nous pouvons être des adversaires tournés l'un vers l'autre, le regard front à front, etc. L'adversaire. Dans une relation de travail, s'il y en a un, on a évoqué ça plusieurs fois, je pense, au cours du séminaire, il y a une main qui prend l'initiative et l'autre main est l'adversaire de cette main qui prend l'initiative, celle qui va taper sur le silex et celle qui va tenir le silex. Elles sont en relation à la fois de collaboration et d'adversité. Ça ne peut pas marcher comme ça, si vous voulez. Il faut qu'elles se considèrent l'une l'autre, les deux mains. Bon. Cette manière qu'elle a, la mère qui laisse à désirer rien, de s'occuper, d'avoir souci de l'autre qu'est l'enfant, voilà ce qui fait que chez cet enfant, donc chez l'autre, chez l'adversaire, le désir se lie à rien. C'est parce qu'elle est suffisante que le désir de l'autre se lie à rien. C'est parce qu'il y a de la suffisance que le désir de l'autre se lie à rien. Se lie du verbe lier, hein, bien sûr. C'est parce qu'il y a de la suffisance que rien est ce qui est laissé comme possible. Je vous la refais en douceur, celle-là. Voilà. C'est parce qu'il y a de la suffisance chez la mère en question, mais on peut enlever la mère, c'était l'exemple de Barthes, je généralise. C'est parce qu'il y a de la suffisance, alors je le dis comme ça, je sais bien que c'est pas... Il manque le je ne dis pas rien n'est, je dis rien est, comme Barthes disait, qui laisse à désirer rien. Il ne dit pas qu'il laisse rien à désirer, qu'il laisse à désirer rien. Bon, et donc, c'est parce qu'il y a de la suffisance chez, alors on peut dire la mère, qui en l'occurrence serait une figure du despote dans mon esprit, la mère entend qu'elle laisse à désirer rien, je précise. Hein. Bon. C'est ce qui fait que chez l'enfant, par extension l'autre ou l'adversaire, le désir se lie à rien, ou que rien est ce qui est laissé comme possible. Le seul possible, c'est rien. Alors, bon, si vous voulez que je vous rassure sur mon état, je dirais que c'est ça, ça va être ça ma question, c'est ça ma question pour finir, c'est-à-dire, il y a toute une dénonciation, disons, de la technique autour de nous qui se fonde en fait sur l'idée que ça nous laisse à désirer rien. Voilà. Bon, alors j'essaye de trouver une autre voie. Rien peut être ce qui est laissé comme possible. La seule demande audible dans ce genre de situation, c'est celle qui, demandant rien, ne demande en particulier rien d'autre. C'est un problème de logique, là. Si vous demandez rien, en particulier, vous ne demandez rien d'autre que ce qui est. Donc vous demandez rien. Vous me suivez ? Voilà. Donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que, si vous voulez, supposons que nous soyons mineurs, serfs, esclaves, on va trouver des mots pour finir dans quelques secondes. L'enjeu, c'est d'arriver à ce que nous ne demandions rien. Que nous demandions en particulier rien d'autre. Voilà. Et que devant le moindre objet technique, nous nous disions... Je n'y peux rien. Voilà. Donc j'essaye de penser contre ça. J'espère que vous l'entendez. La seule demande audible dans la situation que j'essaye de décrire, pour la critiquer, c'est celle qui, demandant rien, ne demande en particulier rien d'autre, et qui, partant, ne parle pas, puisqu'elle ne demande rien ou rien d'autre, elle ne parle pas, si mon raisonnement de ce soir est juste. Si rien n'est demandé, il n'y a pas de parole, donc on ne parle pas. Ou alors, si le mot parler est absolument inévitable, puisqu'il est quand même courant dans le langage, ou alors si ça parle, ça parle pour rien dire. Voilà. Vous voyez, les positions qui nous seraient laissées, c'est celle de demander rien d'autre, de, par conséquent, ne pas parler, puisqu'on demande rien, ou alors, si quand même on dit quelque chose, que ça soit pour rien dire. Donc parler, parler, mais pour rien dire. Causer, causer, mais pour rien dire. Il me semble que deux choses sont particulièrement intéressantes dans l'analyse d'esprit bartésien que je viens de rapporter. La première, c'est qu'on peut être victime du despotisme tout en étant comblé. Ou, si vous voulez que je le dise autrement, on peut être victime du despotisme sans être pour autant dans le dénuement. Parce que la mère suffisante, arrogante, suffisante, évidemment, elle ne laisse pas son enfant dans le dénuement. Évidemment, elle le comble. Voilà. Alors, ça peut être de notre situation. Nous pouvons être comblés de biens, comme on dit, des biens, et en fait être sous le joug d'un despotisme qui ne nous laisse à demander rien ou à parler pour dire rien. Donc ça me semble intéressant. On peut être victime du despotisme tout en étant comblé ou sans être pour autant dans le dénuement. Et la deuxième chose qui me semble intéressante dans l'analyse d'esprit bartésien que je viens d'essayer de vous rapporter, c'est que si le despote a un espoir, c'est celui que le décidataire de son despotisme, appelons-le son adversaire, ne puisse envisager que rien comme possible. En tout cas, rien d'autre que ce que le despote, parce qu'il se pense comme ayant, lui, le despote, la disposition des choses, donc que l'autre ne puisse envisager que rien comme possible, ou en tout cas rien d'autre que ce que lui, le despote, propose pour cet autre, pour cet adversaire. Je veux dire, il n'y aurait pour, appelons-le comme on pourra, le servant, le serviteur, le serf, le minoré dans la parole, il n'y aurait nulle autre situation possible que celle qui a été projetée pour lui, à son intention certes, malgré lui, cependant. Ce rien d'autre, alors, j'ai presque fini, le rien d'autre comme possible, hein, qui serait la position... vous avez compris ce que j'appellerais le despotisme contemporain, hein, qui nous comble de bien, voilà, et qui nous laisse rien d'autre comme possible que d'être comblé de ces biens-là. Voilà. Ce rien d'autre comme possible ne caractérise pas le réel de la situation, je parle en général, ne caractérise pas le réel de notre situation, si vous voulez que je parle en particulier. Le rien d'autre comme possible, mais j'en fais une thèse philosophique, et pas simplement un propos pour un moment historique. Le rien d'autre comme possible ne caractérise jamais le réel comme tel, quelle que soit la situation. C'est-à-dire, le réel est toujours habité par du possible. Le réel. Donc c'est la thèse que, philosophique, ontologique même, que je vous propose pour... je peux défiler ce que j'ai préparé comme note. J'ai encore un petit peu. Non, donc patience. Donc le rien d'autre comme possible ne caractérise pas, ne caractérise peut-être jamais le réel d'une situation quelle qu'elle soit, mais caractérise l'imaginaire du despote dans la situation. l'imaginaire du despote dans la situation, c'est-à-dire ce que j'ai appelé il y a quelques secondes, ce qu'espère le despote, c'est que nous pensions qu'il n'y a rien d'autre comme possible que ce qu'il propose de faire ou de dire. Voilà. Mais ce n'est pas le réel. Le réel, c'est jamais... Il n'y a jamais rien d'autre comme possible dans le réel. Il n'y a rien d'autre comme possible dans l'imaginaire concernant, alors non plus le réel, si vous voulez, mais ce qu'on pourrait appeler à la place du réel, la réalité. C'est avec cet imaginaire en tête, l'imaginaire du despote, rien d'autre comme possible, c'est avec cet imaginaire en tête que sont configurées les positions économiques du servant, du serviteur, du serf, ou pour le dire autrement, c'est avec cet imaginaire en tête que sont configurées les positions économiques de l'exécutant, de l'agent, ou de ceux que j'appellerais les relais. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors d'une soirée de ce séminaire, je vous avais indiqué qu'il y avait dans la langue de Platon, donc la vieille langue de Platon, donc c'est un problème qui est posé depuis longtemps, même si sa modalité même s'il n'est pas éprouvé aujourd'hui avec les mêmes sortes de biens qu'autrefois. Si on lit attentivement Platon, on s'aperçoit qu'il distingue, il y a deux mots dans sa langue, dans son grec, pour parler du servant, du serviteur, etc. Il y a oikétès et il y a hupérétès. Et hupérétès, c'est celui qui ne fait que relayer la position du despote. En français d'aujourd'hui, on dirait son patron. Le relais, l'agent. Alors, il y a aussi, à l'autre bout de la chaîne historique, chez Benjamin, la distinction entre l'agent et le producteur. Le producteur, c'est celui qui touche aux conditions de travail. Donc, c'est un opérateur de geste, si je traduis ça dans le langage du séminaire. L'agent, c'est celui qui fait tourner le système, voilà, qui est juste un relais dans le système, voilà. Alors peut-être ce mot relais, il m'a arrêté parce que, comme j'ai utilisé à plusieurs reprises l'image du circuit sous tension lors des séances précédentes, je me suis demandé s'il ne faudrait pas que je revienne sur cette image et dire qu'est-ce que c'est que la pièce qui fait relais dans le système et qui peut sauter lorsque le système est trop sous tension, est sous trop forte tension. Bon, je ferme la parenthèse, ça serait trop long. En tout cas, tous les termes que je vous propose là, donc servant, serviteur, serf, exécutant, agent, relais, hupérétès, pour parler très chic, tous ces termes signifient ici, à mes yeux, une attitude, d'où s'exclut l'idée de modifier les conditions opératoires. Et tous termes susceptibles par conséquent de décrire en général la servitude. S'il est vrai que ce terme-là, servitude, a le sens que lui donne Jacques Rancière dans « Au loin, la liberté ». Voulez-vous que je prenne quelques minutes, quelques secondes plutôt, pour vous lire trois extraits de Jacques Rancière ? Je trouve très très beau, et pour moi ça définit la servitude. Bon. Alors je lis, première citation. C'est cela la servitude, non pas la soumission des hommes du peuple aux représentants de l'ordre, mais leur commune soumission à la répétition du même. C'est cela la servitude, la commune soumission des hommes à la répétition du même, non pas l'obligation d'obéir, mais l'impossibilité d'imaginer que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. C'est cela la servitude, je résume, l'impossibilité d'imaginer que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. Ça c'est Jacques Rancière, dans le chapitre « Le ronronnement de la servitude ». Deuxième citation, « Tel est le premier héritage du servage », c'est un livre consacré aux nouvelles de Tchekhov, le livre de Rancière. « Tel est le premier héritage du servage, la peur de la liberté », c'est-à-dire l'impossibilité de penser que l'on puisse faire naître du temps autre chose que la répétition identique de l'ordre des choses. Tel est le premier héritage du servage, la peur de la liberté, c'est-à-dire l'impossibilité de penser que l'on puisse faire naître du temps autre chose que la répétition identique de l'ordre des choses. Donc, imaginer rien d'autre comme possible. Troisièmement, troisième citation, je m'arrêterai là, il y en aurait bien d'autres à faire. Il n'y a pas d'autre raison à la servitude que la servitude elle-même. Celle-ci reproduit sans cesse, chez les grands comme chez les petits, les manières, les affects et les pensées qui la perpétue en retour. À quoi j'ajoute quand même une quatrième référence. Pour briser le cercle de la servitude, il faut que l'activité menée aujourd'hui mette déjà en œuvre le principe de la vie future. Je vous laisse méditer. Donc moi je disais que il y a un imaginaire du despote qui n'est pas le réel, mais dans cet imaginaire, qui n'est jamais le réel de la situation, mais dans cet imaginaire, il n'y a pas d'autre possible. Voilà. Et que cette idée qu'il n'y a pas d'autre possible, c'est ce qui configure, selon moi, les positions économiques du servant, du serviteur, du serf, de l'exécutant, de l'agent, du relais, tout ce que vous voudrez de cet ordre, tout terme signifiant finalement la servitude. Donc, l'imaginaire, quel qu'il soit, aussi prégnant, voire structurant soit-il, n'est pas le réel. Le réel implique le possible. Je dirais même, implique le possible comme tel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je me souviens que j'ai collaboré pendant pas mal d'années quand même à la revue Ligne, et je me souviens qu'une fois, dans les discussions avec Michel Suriel, il avait été question de ça, de qu'est-ce que le possible, voilà. Bon, le sujet qui m'avait fort embarrassé. Alors c'est dommage, aujourd'hui je crois que je pourrais écrire le texte que je ne pouvais pas écrire à l'époque. Et voici pourquoi, parce que je suis arrivé à penser quelque chose concernant ce que je viens d'appeler, c'est prétentieux hein, ce que je dis là, le possible comme tel. Pour moi, désormais, le possible comme tel, ça veut dire tout n'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est deux choses. Premièrement, que tout n'est pas possible. Donc c'est les slogans politiques qui m'ont effrayé. Ensemble, tout est possible. Yes, we can. Ça, c'était plus chic, ça. Mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc, le possible, ça n'est pas toutes sortes de possibles possibles. Le possible, par conséquent, n'est pas infini. Il y a bien des conditions de possibilité. Bon. Donc, quand on dit il n'y a rien d'autre possible, je ne veux pas dire pour autant n'importe quoi est possible. Il y a des conditions de possibilité. Le possible n'est pas infini, tout n'est pas possible. Mais tout de même, le possible n'est jamais nul. Tout de même, toujours, il y a de la possibilité dans le réel. Alors, dans l'imaginaire, peut-être pas. Dans l'imaginaire, on peut imaginer qu'il n'y a pas de possible dans la situation. C'est l'imaginaire du despote. En tout cas, pas d'autre possible. Donc, s'il n'y a pas d'autre possible, il n'y a plus de possible. Donc, tout n'est pas possible, et cependant, dans le réel, il y a toujours du possible, le possible n'est jamais nul. Il y a de la possibilité dans le réel, quel qu'il soit, quelle que soit son actuelle phénoménalisation. Voilà. Le réel apparaît comme il apparaît, et quelle que soit la parution à nos yeux du réel, dans le réel, il y a toujours du possible. C'est une thèse ontologique. On n'est pas obligé de la partager. Et peut-être d'ailleurs, comment dire, peut-être c'est le fait de ne pas la partager qui, en dernière analyse, soutient le despotisme. Mais en tout cas, c'est une thèse ontologique. C'est la thèse qu'aura soutenue Gilles Deleuze à chaque fois qu'il aura déclaré que le virtuel ne s'oppose pas au réel, mais à l'actuel, je dis bien. le virtuel ne s'oppose pas au réel, mais il y a toujours du virtuel dans le réel pour Deleuze, même si le virtuel n'est pas actualisé. C'est ce que je viens de dire dans mon langage, il n'est pas actuellement phénoménalisé. Ou il ne l'est pas au même titre que d'autres éléments dont nous pouvons plus facilement caractériser parce qu'ils nous apparaissent comme tels, comme réels. Mais la thèse selon laquelle il y a toujours du possible dans le réel, c'est aussi la thèse qui anime profondément, jusqu'à un certain point en tout cas, la gestique de Michel Guérin sur laquelle j'aurai appuyé tout ce séminaire. Et c'est encore cette thèse avec laquelle nous, en tant qu'héritiers du lexique de la pensée grecque, nous pouvons définir la technique. La technique, c'est il y a toujours une autre possibilité. Voilà ce que je propose de dire. Est-ce que, en effet, nous ne désignons pas par ce mot de technique le fait que quelque chose qui n'est pas dans l'actualité peut y advenir? Voilà, ça peut être. Le technicien, c'est celui qui pense à ce qui peut être. Et c'est celui qui effectue une possibilité, qui actualise une possibilité. Est-ce que par technique, nous ne désignons pas en effet quelque chose qui n'est pas dans l'actualité mais qui peut y advenir, c'est-à-dire qui peut y être phénoménalement en raison d'opérations qui se seront lancées ou élancées depuis des gestes, par définition en tant que gestes non achevés, non accomplis, non terminés, dans le moment même où ils apparaissent, où ils s'effectuent. Alors, cette fois, j'arrive vraiment au bout. C'est le dernier paragraphe que j'ai écrit en me disant qu'il fallait que je conclue la conclusion. Mais après, je m'arrête. Je pourrais conclure la conclusion de la conclusion, mais ça serait... Bon. Je tiens pour possible... Alors, je ne peux pas le dire autrement, parce que, mettons que c'est une thèse. Je tiens pour possible qu'il y ait parmi nous, aujourd'hui, encore... des lancements techniques. Il est encore possible qu'il y ait des gestes, autrement dit, en tout cas, ce que j'appelle, là, pour finir, des lancements techniques. Le problème ne tient pas au principe de cette possibilité. La technique est toujours possible, la technique est encore possible. Dire la technique est encore possible, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore peut être, qui n'est pas encore phénoménalisé, pardon, peut être. Donc le problème ne tient pas au principe de cette possibilité qu'il y ait encore des lancements techniques, mais au fait que l'effectuation de cette possibilité n'est pas, pour commencer, évidente. C'est ça le problème. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de lancement de geste parmi nous aujourd'hui, c'est que le geste, l'effectuation d'un geste, pour commencer, n'est pas évidente. Ce que j'aurais dit au moins 6 fois cette année. Voilà. Ça ne commence jamais un geste de manière évidente. Voilà. Donc c'est ça le problème. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de geste. Peut-être on peut... Il ne faut pas conclure du fait qu'il n'y a pas d'évidence du geste au fait qu'il n'y a pas de geste. Voilà. Il y en a toujours, des gestes. Le réel, c'est toujours habité par impossible. Impossible. La possibilité technique n'est pas, n'a sans doute jamais été réalisée au sens où ce verbe signifie « se rendre compte ». Elle n'est pas, ou même... probablement n'a sans doute jamais été immédiatement réalisée, car elle ne se produit pas au vu et au su, mais, comme je n'ai cessé de le dire, dans une sorte de silence. Toute lancée technique ne se produit pas au vu et au su, mais dans une sorte de silence. Toute possibilité technique ne commence pas à s'actualiser au vu et au su, mais dans une sorte de silence. À ce silence, il est possible, mais pas certain, de répondre. Au silence des gestes des opérateurs techniques qui commence à effectuer des possibilités, il est possible, il est toujours possible, mais jamais certain de répondre. Il est toujours possible de répondre et jamais certain que réponse soit apportée. Réponse. Voilà. J'utilise ce mot ou ce verbe, répondre, en pensant qu'il implique celui de responsabilité. Le responsable, c'est celui qui répond à la question « Qu'as-tu fait ?» Donc j'utilise ce mot « répondre » en pensant qu'il implique celui de responsabilité et que partant, il implique une zone de langage. Alors, il faut que je dise pour ceux qui sont à distance qu'on a un problème. Il n'y a pas une tempête sur Paris, mais quasiment. Et on a une fenêtre qui s'est ouverte. Donc, je disais que le possible technique commence à exister finalement, à sortir de sa stricte possibilité, sans que ça soit au vu et au su, mais dans une sorte de silence auquel il est possible, mais pas certain, de répondre. Alors j'utilise ce verbe « répondre » donc en pensant qu'il implique celui de responsabilité et que partant, il implique aussi une zone de langage, le passage par une zone de langage. Hein, on répond à une question, il y a réponse donnée à quelque chose. Il y a encore cette raison, me semble-t-il pour finir, que le problème... Notre problème de contemporain, en tout cas, tient moins au fait supposé que nous serions désormais esclaves de nos techniques. Je ne suis pas sur cette position de penser que nous serions désormais esclaves de nos techniques. Le problème, notre problème de contemporain, ne tient pas tant à ça que je viens de dire qu'à la façon, justement, dont nous répondons de et à un certain nombre de faits et gestes. Peut-être, je dirais, notre problème tient au fait que nous répondons mal ou pas assez, ou pas du tout, de et à un certain nombre de faits et gestes qui ont pour inconvénient majeur de ne pas eux-mêmes répondre tout à fait aux saisies conceptuelles et intellectuelles, aux schèmes de compréhension et aux discours dominants. Je ne sais pas si ma phrase est claire, mais j'imagine qu'il y a ici ou là, parmi nous aujourd'hui, des opérateurs techniques qui effectuent des gestes techniques, c'est-à-dire qui déplacent des opérations économisées, qui mettent au monde des possibilités, aussi petites soient-elles, qui ne sont pas encore réalisées. Alors, ni complètement sur le plan matériel, ni complètement sur le plan, je ne sais pas comment dire, intellectuel, au sens où on dit réaliser quelque chose, c'est se rendre compte. Il y a sûrement parmi nous aujourd'hui, ici ou là, dans beaucoup d'endroits, des petits gestes techniques qui ne sont pas réalisés. Et ces gestes techniques, ils ont peut-être eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils ne sont pas réalisés, parce que pour les réaliser, il faut tout un travail de langage, etc. Donc je ne reviens pas sur tout mon discours de la soirée. Pour les réaliser, il faut travailler le dire, il faut travailler à les dire. Voilà. Il faut leur apporter une réponse. Et c'est d'autant plus difficile que eux-mêmes, ces gestes-là, par définition, ils se situent à l'écart, au moins un peu, des saisies conceptuelles et intellectuelles, des schèmes de compréhension, des discours dominants. De ce point de vue, je peux dire que la responsabilité de nos vies ne dépend pas que des techniques, la responsabilité de nos vies, au sens... alors tu réponds, tu dis quelque chose. Voilà. La responsabilité de nos vies ne dépend pas que des techniques, elle dépend aussi du phrasé, du degré d'autorisation ou au contraire d'interdit qui porte sur ces techniques. Bon, je m'arrête. Je veux dire qu'il y a une grande responsabilité de ceux qui ne sont pas, si j'ose dire, directement des techniciens ou des inventeurs ou des metteurs au point de gestes, etc. Il y a une grande responsabilité de ceux qui ont, je veux dire, dont la tâche serait de travailler le langage ou de travailler à dire. Et que peut-être ce qui nous rend la vie difficile aujourd'hui, voire l'existence difficile, c'est pas que nous manquions de techniciens capables d'opérer des gestes qui déplaceraient les opérations dominantes, c'est que peut-être nous manquons de parler ces gestes-là, de les dire, voilà, de les phraser, etc., etc. Si nous ne sommes pas émancipés, c'est peut-être pas tant parce que nous aurions des techniques qui nous asservissent que parce que nous ne déployons pas suffisamment de paroles autour des gestes qui s'opèrent réellement dans le monde. Je ne peux pas vous dire mieux, sauf si vous me soumettez à la question. Donc en gros, c'est tout pour ce soir. Voilà.
Commencer à désirer rien, ça pourrait pas être un début de retournement, voire un premier geste d'émancipation.
Commencer à désirer rien?
Oui, à propos de Barthes, parce que j'ai entendu la leçon de Barthes il y a quelque temps, pas récemment sur le neutre, ce passage sur l'arrogance. J'ai plus en tête le passage sur la mère, mais quelques phrases sur l'anorexie. Qu'il décrit comme j'ai pas le souvenir qu'il utilise le mot désirer, moi j'ai en tête l'appétit de rien, qui est différencié du fait de ne rien vouloir manger, d'avoir un appétit de quelque chose mais qui était rien. Est-ce que quand dans le cas d'une anorexie, même si lui ne prend pas ce cas sur le plan pathologique, quand un ou une enfant, peut-être mineur ou devenu majeur en droit, commence à ne plus manger, est-ce que c'est pas un premier geste d'opposition vis-à-vis du parent ou de la mère, hein?
Bah, poser sous cette forme les questions interrogatives, je suis obligé de répondre oui. Mais en fait, il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas répondre oui, mais... Alors, je ne suis pas spécialiste de l'anorexie, hein. Mais je pense quand même, si je peux me permettre, que dans ce que tu dis, il y a une différence entre la phrase, l'expression courante, « ne rien vouloir manger », et ce que peut-être dit ou aurait dit ou dirait Barthes ou en tout cas, si c'est pas lui, je dirais, allons voir du côté de Lacan, quoi. Ne rien vouloir manger et vouloir manger rien. C'est-à-dire que l'anorexique, tel que ainsi analysé, c'est pas quelqu'un qui mange pas. C'est quelqu'un qui mange rien, qui a l'appétit ouvert sur le rien, voilà. Et qui, de ce point de vue-là, enfin, est-ce que je dirais répondre, est-ce que c'est le bon mot, convient, d'une certaine manière, se met, accepte d'être dans la place qui lui a été désignée, à savoir le sujet du désir, le sujet au sens de, le sujet, c'est celui qui commande la phrase, celui qui dit je, etc. Le sujet du désir, c'est pas toi, l'anorexique, enfin, je me place du côté de la mère, mais c'est moi. C'est moi la mère, c'est moi qui sais. Voilà. Et tu n'as pas de. Y a pas de place pour que tu dises. Alors, moi, je prends plutôt ça comme une conformation dans l'esprit. Après, ce qu'il en est réellement de l'anorexie, du traitement de l'anorexie psychique, etc., de ce qu'on peut en penser aujourd'hui du côté des psychologues, je ne sais pas. Moi, ce qui me. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit, naturellement, comme toujours, mais je trouvais que c'était intéressant de méditer sur ce désirer rien. Et peut-être une façon de répondre à ce que tu dis, ce serait de dire que l'anorexique, en l'occurrence, ou le sujet enfin, sans désir, se conforme, se conforme à ce qui lui est proposé. Ce qu'il est proposé d'avance. Et en fait, il se tient ce sujet dans l'imaginaire. Voilà. Et comment il en sort? Comment est-ce qu'on sort d'être tenu dans l'imaginaire d'un autre? Moi, je pense que c'est parce que j'ai appelé depuis. Au moins cette année, un geste qui a comme caractéristique de ne pas être pensable d'avance. Voilà. Ça arrivera peut-être qu'il en sorte, le sujet. Et il ne saura pas ce qu'il en a fait sortir. Autrement dit, il n'y a pas de décision là-dessus. Il n'y a pas un quelque chose à faire qu'on pourrait dire d'avance pour sortir du désirer rien. Ça arrive. Ça arrive qu'à un moment donné, il se décale de la place qui lui est faite. Il ou elle, bien sûr. Il, le sujet. J'ai répondu? Oui.
Je m'interroge sur la notion d'appareil, qui serait cette. J'ai plus le mot exact, mais cette machine qui laisse des possibles à venir. Je me demandais s'il était possible, enfin, si en réfléchissant au travail de conception, donc il y a pas, je distinguerais le travail du technicien qui crée, mais vraiment juste du designer qui mettrait en forme, si ça a du sens de dire ça. Est-ce que ce travail de conception, est-ce que vous le verriez comme un travail de cadrage rapidement, j'imagine. Et est-ce que du coup, il est possible que ce travail de cadrage, de la conception, de la mise en forme d'une machine puisse conduire à l'ouverture de l'impossible?
Oui.
Est-ce que, pour le dire autrement, le designer, le concepteur, différencié du technicien, peut être celui qui dit les gestes, qui constate des usages et qui porte des gestes qui ne sont pas encore dits dans le travail de conception?
Pour moi, non. Pour moi, non. Alors après, pour bien des gens qui parlent du design, oui. C'est même, je dirais, le langage majeur ou dominant concernant le design. Je pense que le design, alors je pourrais dire qui m'intéresse, ou le design en tant qu'il aurait quelque chose à voir avec ce que j'ai appelé émancipation, etc., n'est pas un travail de conception. Ou n'est pas libérateur en tant qu'il serait un travail de conception, puisque précisément la conception cadre. Voilà. Et qu'en fait, le travail, il y a un travail qui n'est pas de conception. Et c'est même peut-être ça le travail, d'ailleurs. C'est faire, et j'allais dire, faire si bien que. Faire, et puis ça a comme conséquence qu'il arrive quelque chose qui n'était pas conçu, si on entend par conception prévu, ou anticipé, ou, etc. Voilà. Parmi mes plus grands exemples pour justifier la plausibilité de ce que je viens de dire, je ne dis pas que c'est vrai, mais au moins c'est plausible, c'est le cinéma. Voilà. C'est le fait qu'il y ait... il n'y en aurait qu'un seul film, comme je vais vous dire, que ça suffirait pour justifier que c'est possible ce que je vous dis. Mais il y en a plus qu'un. Voilà. C'est travailler avec des appareils, en l'occurrence des appareils d'enregistrement, et laisser arriver le film comme il sera et non pas comme on voulait qu'il soit. Donc on peut donner des tas d'exemples de séquences qui n'ont pas été conçues et qui sont peut-être parmi les plus beaux moments du cinéma. Et donc, l'enfermement du design dans la notion de conception, moi je trouve ça dramatique, parce que ça écarte le design, l'idée qu'on se fait du design du fait de travailler la technique. Qu'est-ce que c'est que travailler la technique? C'est, comment dire, lui laisser faire, à elle, la technique, autre chose que ce qu'il est convenu qu'elle fasse. Voir déjà si c'est possible, en tout cas travailler à ce que ça ne se passe pas selon les modes d'emploi, les protocolaires, etc. Et là, moi, je vois un grand espace de recherche pour ce qu'on appelle le design, voilà, qui ne consiste pas à mettre au monde des objets efficients, mais à mettre au monde des objets qui n'auraient pas existé si on n'avait pas travaillé ou laissé travailler la technique. C'est-à-dire... s'être mis en rapport avec un autre possible, ce que j'ai appelé en fin de séance, là, un autre possible. Est-ce que je vous réponds ouais.
Je réfléchis. Ouais. Mais oui. Et donc la conception n'est pas ouverte, elle ferme.
Elle cadre. À la limite... c'est pas gênant qu'il y ait des cadres, à la limite. Je veux dire, ça. Bon. Même si je pense que le possible, c'est jamais n'importe quoi. On pourrait toujours craindre, justement, que ça soit n'importe quoi. Et donc, pourquoi pas des cadres mais à ce moment-là, il faut savoir que cadrer, ça n'est pas. Ça n'est pas ouvrir une possibilité, c'est précisément l'encadrer. Voilà. Peut-être que la vie humaine, qui ne peut pas ne pas être une existence, elle a aussi besoin à certains moments de se reposer, de seulement subsister, et que les cadres la reposent. Donc, pourquoi pas? Mais ça ne suffit pas. Le problème, c'est la suffisance de la position conceptrice. Pour moi, c'est ça le problème. La suffisance de la position conceptrice, l'arrogance, voilà. Et le fait que ça ne laisse pas dire autre chose, c'est-à-dire on peut pratiquement rien dire qui semble plausible quant au design, autrement que ça, le design c'est de la conception. Bon, bah alors si on peut rien dire d'autre, on n'est pas dans, qu'est-ce qu'on est, on est dans la servitude intellectuelle. Ça m'agace, la servitude intellectuelle. Pardon, j'ai pas entendu.
Est-ce qu'il n'y a pas une façon de faire du design qui ouvrirait les cadres, qui écouterait, qui ferait évoluer les cadres en permanence, qui mettrait dans ces cadres les choses, les gestes non dits, non compris, non conscients.
Il y a un cinéaste que, dont le nom m'échappe au moment d'en parler, Jean-Claude Rousseau, qui disait, je l'ai entendu dire une fois à propos de sa caméra. elle ne fait pas ce que je veux, elle fait ce qu'elle peut. Et moi, quand j'ai une caméra entre les mains, je me demande ce qu'elle peut. Elle, la caméra. Voilà. Et après, je travaille. Et avec ça, je travaille. Donc on pourrait se dire ça. Ce avec quoi on met au monde quelque chose, concrètement, qu'est-ce que cet outillage-là, si vous voulez, qu'est-ce qu'il peut ? Est-ce qu'il peut seulement ce qu'on lui fait faire le plus couramment, quand on l'emploie ? Est-ce qu'il peut autre chose ? Chercher le pouvoir autre, la puissance autre. C'est ça que moi j'appelle appareil. Si on trouve dans la technique avec laquelle on travaille rien d'autre que ce qui est fait d'ordinaire, cette technique n'a pas d'intérêt particulier, sinon faire ce qu'on fait d'ordinaire avec elle, il n'y a rien de particulièrement émancipateur, nouveau, réjouissant, existentiel là-dedans. Même si c'est utile à la subsistance. Ça peut être utile à la subsistance, et dans ce cas-là, faisons-le, en tant que c'est utile à la subsistance. Mais ce n'est pas ça qui fait exister la vie humaine. Ça va ? Non. Qu'est-ce que c'est le réel ?
Parce qu'à la fin, on revient au réel. En fait, il y a toujours du possible dans le réel, et c'est finalement l'imaginaire qui cadre et qui nous enferme. Moi, je lis Castoriadis en plus en ce moment, donc je suis un peu. Ça me met un peu la tête à l'envers.
Bah, oui. Bah, je pourrais vous répondre, le réel, c'est ce qu'on n'imagine pas. Je pourrais vous répondre, le réel, c'est ce qui n'est pas cadré par nos concepts. C'est tout ce qu'il y a qui n'est pas cadré par nos concepts. Et évidemment, si on a des concepts prétentieux, arrogants, suffisants, etc., ou si on est prétentieux, arrogant, suffisant du côté du mode conceptuel de la pensée, du coup, il n'y a pas de réel. Donc, je ne sais pas, je suis enregistré, donc forcément, déjà j'ai dit beaucoup de choses. Je vais dire aussi prudemment que je peux, ce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être ce que les ingénieurs ont énormément de mal à admettre. Voilà. Que le réel, ça ne soit pas les concepts qu'ils ont dans la tête. Que même quand ils réaliseront, au sens faire quelque chose, faire devenir chose, un concept qu'ils ont dans la tête, il y aura du réel dans cette chose-là, qui échappe à leur cadrage, qui échappera à leur cadrage. Ou alors, si j'ai tort, la vie est terminée. Mais comme je ne peux pas penser ça, puisque je m'astreins à penser optimiste, j'essaye d'aller à contresens. Je pense qu'en fait, on est en train de le voir. Je veux dire, la surpuissance dans laquelle les énormes entreprises qui gèrent les technologies d'aujourd'hui sont en fait, comment dire, elles sont dans une crainte terrible que précisément le réel des techniques qu'elles emploient leur échappe parce qu'il y a dedans du possible. Sur quoi ils n'ont pas pourquoi ils n'ont pas les concepts, aussi puissants soient-ils, et eux et leurs concepts. Ah non, vous m'avez interrogé sur le réel.
Ah oui.
Je vous ai répondu sur le réel. Oui. Le réel, c'est ce qui échappe à l'imagination et au concept. Alors, se saisir, moi je ne suis pas pour ça. Bon, j'ai utilisé, je pense, assez précisément malgré tout enfin, le langage de ce soir, j'oublie ce que je voulais vous dire au moment de le dire. Oui, je ne suis pas pour ce vocabulaire-là, la saisie, l'interpellation, j'ai dit ce soir, je crois, la capture, la saisie. C'est pas parce que nous nous saisirions de telle ou telle technique que nous les libérerons. Non, c'est peut-être plutôt le contraire, dans la mesure où dans la mesure où nous, comment dire, où il y a un pas de côté qui est fait par nous, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand, un pas de côté qui est fait par nous et qui nous fait sortir dans notre de l'imaginaire despotique. Voilà. Et qui se traduit par le fait que nous... j'allais dire que nous nous lançons un jour, on pourrait presque dire, du point de vue de la gestion des choses, nous faisons un geste, c'est-à-dire un geste de travers, du point de vue de la gestion des choses. Voilà. Et si nous sommes capables nous-mêmes de répondre à ce geste-là, d'avoir de la responsabilité par rapport à ce geste-là, de commencer à nous dire seulement à partir de ce moment-là, tiens, je viens de faire quelque chose qui n'est pas attendu, alors là, peut-être, il y a un mouvement d'émancipation qui peut commencer.
J'ai une petite question, parce que vous faites référence à Lacan, et puis il y a le réel, l'imaginaire, donc il y a une crise symbolique.
Oui.
Et en fait, comme vous avez aussi évoqué auparavant... la question du mythe, enfin, vous avez quand même pas mal critiqué ces choses-là. Enfin, non, mais en fait, c'était juste ça. Je me suis dit, peut-être pour l'année prochaine, un séminaire sur la technique symbolique. Non, mais en fait, enfin, voilà, quelle est la part de symbolique là-dedans? C'est l'imaginaire du côté du despotisme,
bon, alors...
du côté du faire.
Moi, je travaille comme je peux, hein. J'écris pour vous comme ça, et puis au bout d'un moment, je me dis, oh là là, j'en ai bien trop, il faut que j'en enlève, et ça va être trop long. Le contraire, des fois, je suis trop court, il faut que je rajoute un peu. C'est pas vraiment... la planification de tout ça n'est pas... justement, elle n'est pas conçue d'avance. C'est du travail, ce que je fais... et donc, par exemple, cette distinction entre le réel et l'imaginaire, c'est rentré dans mes notes que la semaine dernière. Mais au fait, si je le dis comme ça, c'est peut-être pas mal dit. Enfin, c'est vous qui jugez. Mais moi, je me disais, si je le dis comme ça, c'est peut-être pas mal dit. Et donc, quand j'ai écrit le passage d'avant sur le parler, etc., j'avais pas encore l'idée que j'allais finir avec le réel, l'imaginaire. Si je réécrivais mon texte, si j'avais le temps de le réécrire, je pourrais dire que tout ce que je vous ai dit quant au parler, ça serait le symbolique. Parler, ça veut dire pas imaginer, et par définition, la parole n'est pas... Les gestes, c'est le réel. Le réel est fait de gestes, et la parole, évidemment, c'est une symbolisation des gestes, si je suis Lacan et si j'ai un peu compris, qui n'est pas sous l'obédience de l'imaginaire. Symboliser vraiment, ça pourrait correspondre à ce que j'ai dit ce soir avec cette formule un peu parler vraiment parler, véritablement parler. Essayer de dire ce qui advient. Les opérations qui sont menées ici ou là, les gestes, de les dire sans les imaginer. Ça serait, je pense que ça pourrait être symboliser le réel. Ça pose des tas de questions philosophiques. Hein, mais bon. Parce que je flirte des fois avec la pensée de Kant, et là, ça ne collerait pas. Donc c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas écrit. Bon. Mais bon.
Peut-être une question de clarification pour moi, mais sur ce vraiment parler que vous avez évoqué, qui s'est parfois opposé à un langage plus je te fais savoir que, un langage de communication, etc. Est-ce que vous diriez que ça c'est le langage ordinaire, et je pense par exemple à Cavell et à cette lignée-là,
ou non, à Cavell,
à Stanley Cavell et au langage ordinaire, ou alors non, parce que par moment j'ai aussi eu l'impression, et notamment avec cette idée que le sujet, il y avait la perte du sujet, et là on retrouve aussi un peu aussi, pas la manière de Jean-Claude Rousseau, mais chez Cavell, cette possibilité de retrouver le sujet dans cet appareillage technique que lui appelle plutôt la projection. Mais voilà, je me demandais sur cette question du langage, où vous mettriez peut-être le langage ordinaire, puisque j'ai l'impression que ce vraiment, à la fois qu'il était dans un premier temps plutôt du côté du langage je te fais savoir que, et dans la deuxième partie plutôt du côté de lui vraiment parler, qui serait peut-être le must we mean what we say, le dire ou vouloir dire chez Stanley Cavell, cette idée voilà, que on n'a pas quelque chose à dire, on doit travailler ce qu'on doit dire.
Alors je suis un peu embêté pour répondre parce que je ne peux pas dire que je n'ai pas lu du tout Stanley Cavell, mais là je suis un peu sec, je n'arrive pas à me souvenir précisément de ce que j'ai lu de lui, donc je peux répondre qu'en mon nom. Je dirais que, comment vous avez dit, ordinairement,
lui parle du langage ordinaire.
Langage ordinaire, oui, voilà. Je dirais que ordinairement, le rapport que nous avons, que j'ai, le jeu étant générique, le rapport que nous avons ordinairement au langage n'est pas un rapport de parole au sens que j'ai essayé de dire ce soir. Nous parlons rarement. Voilà. Nous communiquons beaucoup. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous nous servons de la langue ou du langage pour faire savoir, même éventuellement, c'est apparemment des demandes. Mais en réalité, souvent, par exemple, si je dis, je ne sais pas moi, quelque chose qui a l'air d'être « est-ce que tu me passerais du pain ?» C'est formellement une question. Mais ce n'est pas une demande au sens que j'ai voulu dire ce soir. En fait, sous cette question se cache un « j'ai faim, donne-moi du pain ». Il y a un impératif en réalité. « Je te fais savoir que je voudrais du pain. » Alors je fais savoir poliment, gentiment, etc. Mais c'est une communication. Ça n'est que une communication. Je pense que le langage ordinaire n'est pas... enfin, le rapport le plus ordinaire au langage est un rapport de communication. Le parler au sens que j'ai voulu dire ce soir est assez rare. J'ai d'autant plus, ou même pour la raison que j'ai essayé de m'expliquer là-dessus, que c'est un travail. Alors, je ne sais pas ce que dit au juste Cavell, je ne me rappelle pas.
C'est un petit peu différent, mais ça peut, pour lui, ça va être l'idée, c'est plutôt de revenir au langage ordinaire et d'y faire attention.
Oui.
Il y a un soin, une attention à faire à ce langage-là. Et qu'en fait, il dit quelque chose de nous et de notre rapport au sujet qui s'est perdu depuis 300 ans. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que lui va aller chercher dans le cinéma.
Ah oui, alors, la parole, dont, je ne sais pas, mais ça me fait penser, le parler vraiment dont j'essayais de parler, dont je dis à l'instant en vous répondant qu'il est assez rare, n'est pas, il ne faut pas le confondre avec un langage qui serait châtié, si c'est ça la question. Je ne sais plus où j'ai lu concernant... le langage des révolutionnaires, Hébert en particulier sous la Révolution française, qui est un langage qu'on pourrait dire qui flirte avec l'ordurier éventuellement, mais en fait il s'agit de faire brèche dans un usage ordinaire du langage, fut-il manié par des puissants, très chic, avec de beaux habits, etc. Et lui, il fait brèche là-dedans, il parle. À ce moment-là, il y a une parole, parce qu'il y a quelque chose qui répond à du réel. Voilà. On n'est pas dans l'imaginaire à ce moment-là. Voilà. Donc c'est la parole à laquelle j'ai pensé ce soir n'est pas nécessairement, n'est même pas essentiellement, un usage châtié du langage. Ce n'est pas non plus interdit que la langue soit châtiée. Mais bon, je pense par exemple, pour moi, un très grand écrivain, c'est, j'ai dit plusieurs fois, Claude Simon. Lisez Claude Simon et vous verrez qu'à plusieurs reprises, le langage est, comment dire, est, on pourrait dire un langage de Chartier, rouillé, quoi. Bon, et s'il en reste une ici.
Si Catherine Stragan demande, selon ce que vous qualifiez par parole vraie ou symbolique, l'imaginaire serait donc situé du côté de la figuration.
Ouais, vas-y, relis.
Selon ce que vous qualifiez par parole vraie ou symbolique, l'imaginaire serait donc situé du côté de la figuration.
Alors, moi je voudrais tout petit peu, je sais pas, j'espère que je n'ai pas exactement parlé de parole vraie, j'ai dit de parole véritable, de véritablement parler. Et donc, je ne sais pas si le vrai et le faux à ce moment-là, je dirais plutôt le juste, l'ajusté, quoi, le convenant. Mais c'est intéressant de penser à la figure. Et si je devais développer, je pense que je développerais dans ce sens-là et de dire que la figuration, le fait de former de la figure, ce qu'on appelle dans la tradition rhétorique des figures dans le langage, ça consiste à produire de l'imaginaire et même... Je pense à ce fameux texte que j'ai maintes fois évoqué, commenté de Longin, le traité du sublime, premier siècle de l'ère chrétienne. Il s'agit bien de, comment dire, d'enfermer ceux que j'ai appelés ce soir les adversaires, les autres, dans un imaginaire. Voilà, par le biais de ce que Longin appelait une figure de style, etc. Alors évidemment, dans la parole véritable, la parole véritable ne piège pas, il y a le mot je crois dans le texte de Longin, ne piège pas ses destinataires. Elle met plutôt à vif leur attention, leur propre attention au langage. Mais donc oui, je suis d'accord pour dire qu'il faut travailler les figures en les reliant à la haute puissance, au singulier ou pluriel de l'imaginaire.
C'est quoi la question de l'année prochaine?
Je ne sais pas. Je vais déjà me reposer après ça. Mais j'ai entendu la suggestion. J'ai entendu que ça serait bien qu'il y en ait une. Ouais. Oui, ça m'est arrivé. Je vais voir. Mais je sais pas. En tout cas, ça sera plus faut-il s'émanciper. Là, je peux pas faire. Alors, j'ai pas vraiment répondu. Est-ce qu'il faut s'émanciper? Non, il faut pas. C'est contradictoire avec la notion d'émanciper. Après, le s'émanciper. Bon, bref, je vais quand même tourner autour de la question. Je vous remercie tous à distance. Ou ici, de votre patience, et donc peut-être à l'année prochaine. Voilà.